Donc, même chose au niveau de... on serait dans un repli sur l'immédiateté d'un présent, délesté de l'épaisseur d'une durée, intégrant justement l'héritage, mais aussi l'anticipation d'un avenir, nos futurs. Aujourd'hui, vous savez bien, les nouveaux managers, notamment, j'aurai l'occasion de le redire, n'entrevoient pas de futur, qu'un futur très immédiat. De la même façon que au niveau de l'espace, on s'attache, on conçoit le territoire, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais je peux vous dire qu'en France, il y a une obsession du terme de territoire aujourd'hui. Le territoire est partout. Si vous voulez avoir des chances d'avoir un petit peu d'argent public, il faut mettre territoire. Alors, c'est des projets de territoire. Ça, vous êtes sûr de... c'est le mot magique. Mais c'est une conception très fonctionnaliste du territoire, qui se fait aux dépens du vécu, de l'appréhension du vécu du territoire. C'est une conception très politico-administrative du territoire, très fonctionnaliste. Et finalement, évidée de ces multiples figures, de ce qu'on pourrait appeler la territorialité, c'est-à-dire les différentes manières de vivre le territoire. Vous savez, il y a un exemple classique qu'on fait en sociologie urbaine, qu'on apprend à nos étudiants de première année. On leur dit, bon, c'est quoi un quartier? Alors, première réponse des étudiants, c'est de dire, un quartier, voilà, ils sortent une carte, il y a une carte administrative, moi je suis de Rennes, à Rennes, il y a des quartiers, évidemment, comme tout le monde. Et quartier de Villejean, voilà, ils vont dire, c'est ça. Puis il dit, maintenant vous allez faire une enquête, vous allez demander aux habitants de définir leur quartier. Et la surprise des étudiants, c'est que personne ne le définit de la même manière, bien sûr. C'est-à-dire que les frontières qu'élaborent les habitants ne sont pas celles, bien sûr, qui sont inscrites sur une carte. Et c'est ça la territorialité, c'est la manière dont je construis du territoire, et certains construisent du territoire à l'échelle de leur immeuble. Le territoire s'arrête à leur immeuble, parfois ils débordent de quartier. C'est ça la territorialité. Or, aujourd'hui, précisément, la tendance est d'ignorer la manière dont on vit le territoire. Et nous avons interrogé aussi les effets de la dérive naturaliste au plan du savoir. Alors, on a parlé des neurosciences, c'est vrai que... Alors, il ne s'agit pas de rejeter, moi aussi, je pense qu'il ne faut pas rejeter les neurosciences, mais il faut rejeter leur impérialisme lorsqu'ils se présentent. Surtout lorsqu'il tend à déboucher sur un déni, justement, des sciences de l'homme, des sciences de la culture. Mais nous avons surtout montré que ce savoir est fortement... connoté aujourd'hui d'une tendance, d'une valorisation du pragmatisme, de l'efficience instrumentale. Certains vont jusqu'à dire, d'ailleurs, que nous sommes dans une pensée algorithmique, au dépend justement d'une référence à un savoir sur l'homme. Alors, je vais vous livrer quelques indices, je vous ai dit, je ne vais pas traiter de tout ça, c'est impossible, évidemment. Je vous renvoie à notre ouvrage, si vous voulez en savoir plus, mais je vais simplement m'en tenir à trois choses. Je voudrais insister d'abord sur le premier indice de cette dérive naturaliste, c'est l'affadissement d'oppositions structurantes. Je vous ai dit, Jean-François aussi, on vient d'une discipline qui est la sociologie, mais nous avons été aussi formés à l'ethnologie en partie, et on sait bien que la tradition sociologique et ethnologique, justement, n'a eu de cesse de souligner, il n'y a pas que les Lévi-Strauss, il y en a plein d'autres, n'a eu de cesse de souligner le rôle essentiel de la classe et de l'appartenance dans toute structuration des identités sociales. C'est par la classe et l'appartenance, j'y ai fait allusion tout à l'heure, que l'homme s'extirpe de la simple grégarité naturelle. Nous n'avons jamais des frontières de notre espèce en tant qu'homme. Nous construisons justement de l'appartenance sociale. Nous séquençons notre appartenance. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de société, pas une seule, qui n'est instituée à sa manière, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, le classement dans et l'appartenance à une famille, une parenté, un clan, une tribu, un groupe social, un ordre, une nation, je peux encore allonger la liste, définissant ainsi de multiples identités, ou ce que on pourrait appeler les identifications, peut-être qu'il vous parle davantage. De la même façon, il n'y a pas de société, on n'a pas d'exemple, sans qu'il y ait une division sociale du travail. Ça a toujours existé, la division sociale du travail. Elle était plus ou moins accentuée, mais elle a toujours existé. Il n'y a pas de société sans division sociale du travail. Il y a un des pères fondateurs de la sociologie qui le rappelle, c'est Durkheim. Et qui procède, cette division sociale du travail, à des fonctions et des distributions de rôles. Et finalement, qui ouvre à la délimitation et à la répartition des responsabilités sociales. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que personne ne peut tout faire. Chacun est nécessairement amené à déléguer une partie de ses prérogatives, de ses responsabilités à autrui, de sorte que personne ne peut assumer l'ensemble des devoirs sociaux qui reviennent à une société. D'où l'importance, ça, c'est Durkheim, qui avait très bien montré ça, le rôle structurant essentiel de la division sociale du travail. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que cette délimitation et cette distribution de la classe et de l'appartenance d'une part, et de la fonction et du rôle d'autre part, je vous ai dit, propre à toute société, procède à la mise en rapport d'éléments selon un jeu d'opposition structurante. L'identité n'existe pas en tant que telle, ou je le dis autrement, ou la responsabilité n'existe pas en tant que telle, elle n'existe que relativement à ce jeu d'opposition. Et justement, il nous semble qu'un des traits marquants de la société contemporaine, c'est un affadissement de ces oppositions structurantes, de ces oppositions, définitoires de l'identité et de la responsabilité qui sont au fondement, je vous l'ai dit, de tout lien social. Alors, il ne s'agit pas d'une mutation d'ordre anthropologique, encore une fois, mais la conséquence, de notre point de vue, d'une dérive naturaliste qui vient amoindrir la portée, justement, du processus d'acculturation, toujours à l'œuvre. Un certain nombre de sociologues ont montré, par exemple, qu'on assiste aujourd'hui à une certaine désinstitutionnalisation, pas facile à dire. Je pense à François Dubet, par exemple, en France, hein, qui met l'accent là-dessus, et, au profit d'une coexistence sociale. Je le dis parce que ça a été dit ce matin aussi. Jean-Pierre Lambert qui l'a dit ce matin. Une coexistence sociale qui, justement, échappe très largement à ce jeu de position structurante. Par lequel, encore une fois, on crée à la fois l'identité et l'altérité. Alors, nous sommes appuyés là-dessus, notamment sur les travaux d'un sociologue que je vous invite à lire, philosophe, Gilles Lipovetsky, j'ai dit que j'y ferai allusion, qui montre qu'il y a une tendance à la dissolution des identités sociales et des rôles sociaux, une dissolution dans une sorte d'indéfinition, d'incertitude, au profit de ce qu'il appelle l'affirmation d'un narcissisme. D'un narcissisme où chaque univers social, c'est une tendance bien sûr, se suffit à lui-même et rassemble des personnes partageant, et son expression est intéressante et significative pour nous, partageant des préoccupations immédiates et circonscrites. Le terme immédiat bien sûr qui a retenu notre attention. Immédiates et circonscrites. Je cite Gilles Lipovetsky. Plus rien ne ressemble aux configurations rigides et étagées d'autrefois. Dans ces communautés actuelles, on y entre et on en sort, à loisir, par recherche identitaire, adhésion et choix personnel éphémère, aux antipodes de l'imposition mécaniste des temps antérieurs. C'est ce qu'il appelle le narcissisme, qu'il soit individuel ou collectif, qui se traduit notamment par une tendance, encore une fois, il s'agit d'une tendance, des individus ou groupes sociaux à concevoir et à revendiquer la partie qu'ils constituent dans un ensemble social, à revendiquer la partie comme étant un tout. Chacun entend finalement faire valoir sa propre universalité. D'une certaine façon, les droits de chacun ne trouvent leur limite que dans les droits identique revendiqué par d'autres individus, et non plus dans un jeu de, encore une fois, d'opposition. Chacun entend faire valoir sa propre, encore une fois, être la partie, la partie prétend être le tout. On va trouver ça dans le droit des homosexuels, des transsexuels, ce que j'ai rien contre, évidemment, la question n'est pas là, des minorités ethniques, de bien d'autres choses, de groupes de pression, Pierre Deguin y faisait allusion tout à l'heure. Il ne s'agit pas, dans cette perspective, de fonder son existence sociale, encore une fois, par un conflit structurant avec d'autres, mais de faire valoir le caractère absolu et donc non négociable de sa propre existence. Alors, il se trouve que c'est là où nous avons rencontré un certain nombre de psychanalystes, puisque un psychanalyste comme Charles Villemont dit la même chose. Et je le cite, il souligne qu'on s'autorise aujourd'hui de sa propre existence. On constitue sa propre être, c'est lui hein, qui parle. Ce n'est plus un mouvement par opposition, c'est un mouvement qui est sur sa lancée propre. Évidemment, on s'est reconnu dans cette formule. Et on le retrouve par exemple dans certaines revendications des droits au mariage, pour tous, entre guillemets, à l'adoption, à la gestation pour autrui. La reconnaissance des particularismes régionaux, et je sais de quoi je parle, parce que vous savez, nous sommes dans une région très, très tatillonne là-dessus, la Bretagne. Mais aussi des mouvements d'accès au bien-être corporel, psychologique, à l'expression de soi, l'épanouissement personnel, etc. Et toute cette recherche, il ne s'agit pas bien sûr de condamner, mon propos n'est pas là, mais c'est simplement de dire qu'elle n'est plus relativisée par le jeu d'une confrontation à d'autres identités. Mais elle s'absolutise, en quelque sorte, par la prétention à incarner en elle-même un universel. Alors, en philosophie, on a un terme pour parler de cela, on parle d'une forme d'acéité. L'acéité, c'est un état où l'individu ou les groupes sociaux existent pour soi-même ou pour eux-mêmes, et par soi-même ou par eux-mêmes. C'est l'acéité. Alors, il y a un grand sociologue, allemand, un des fondateurs de la psychologie sociale d'ailleurs aussi, s'appelle Georges Simmel, équivalent d'Durkheim en France, hein, c'est un monument, Georges Simmel. Il avait bien montré, dès le 19e siècle, la fin du 19e siècle, et la fin du 19e siècle, début du 20e, Georges Simmel avait déjà montré que la porie foncière, la contradiction interne, l'impasse d'une telle perspective, où si chaque partie prétend incarner la totalité, eh bien il n'y a pas de société possible. Voilà ce que dit Simmel, je le cite. La société prétend être une totalité et une unité organique, de sorte que chaque individu n'en serait qu'un membre. Ce conflit entre le tout, qui exige de ces éléments qu'ils se bornent à leur fonction partielle, et la partie qui veut elle-même être un tout, ne peut en principe être résolue. On ne peut construire une maison avec d'autres maisons, mais uniquement avec des pierres d'une certaine forme. Formule très très connue de Jean Simmel. Alors, je dis ça en écho, bien sûr, à ce que disait Jean-Pierre ce matin, sur le fait qu'il n'y a plus de bord, le monde sans limite. Si on prétend être une totalité en tant que partie, eh bien, Simmel en montre la passe. On ne peut pas faire société à partir de là. Deuxième indice sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est, en reprenant le terme de Gilles Popovski, hein, je préfère parler de narcissisme plutôt que d'individualisme, on en parlera demain, je pense, dans un séminaire où on évoquera ça. Je suis pour ma part, très réservé sur le terme d'individualisme. Alors, je préfère parler de narcissisme, en reprenant le terme de Popovski. Narcissisme au rejet de l'altérité. Tendance, là aussi. Je m'aperçois aussi que je ne sais pas si j'aurais le temps de parler des contre-tendances, parce que je parle des tendances, mais bon, je ne dirai que comment quand même. Je vais prendre un exemple qui est le champ institutionnel, puisque je vous ai dit, j'allais y revenir. Ce narcissisme ou cette acéité que j'ai évoqué tout à l'heure s'observe notamment dans le champ institutionnel et professionnel. Et on peut en voir la marque dans sa fleurie chez nous, dans les nouvelles dénominations de maisons, les maisons, qui s'appliquent sans rire à des administrations, à des formes organisationnelles, on ne peut plus bureaucratiser. Du style la maison de l'emploi, la maison du handicap, la maison des collectivités territoriales, la maison Enfin, ça me fait toujours sourire, parce que je connais les lieux. Donc, quand vous voyez les lieux, ça n'a pas grand-chose à voir avec une maison. Alors, bien sûr, ces expressions, elles visent justement à masquer ou euphémiser. Ça renvoie à la question du masque, qu'évoquait aussi hein, du comment. Jean-Pierre, encore, hein, j'en fais référence à ton intervention, bon, ça fait écho. À ce qui vient un peu masquer, qui vise à finalement masquer l'anonymat et la dépersonnalisation des procédures de ces maisons où il n'y a pas d'accueil. Hein. Mais on peut y voir aussi, et c'est ça que nous avons essayé de montrer avec Jean-François Garnier, c'est qu'il y a un processus de privatisation de la sphère publique à travers ces notions de maison qui affirme un autre soi, mais qui ne s'affirme plus par le jeu d'une confrontation à un autrui déterminé, ni même à un public ciblé d'ailleurs. Il y a même, au contraire, une sorte d'illusion ou d'effacement symbolique de ce public. Effectivement, on ne parle pas de la maison des handicapés, on parle de la maison du handicap. On ne parle pas de la maison des chômeurs, on parle de la maison de l'emploi, c'est bien la plus, de moins en moins. On ne parle pas de la maison des citoyens, mais celle des collectivités territoriales, etc., et tout est l'avenant. Et comment ne pas voir que ça fait écho aussi, une tendance, cette dénomination qui n'est pas anodine, avec un repli privatif sur l'entre-soi qui se manifeste aussi techniquement dans la recherche de procédures, hein, de procédures techniques. Hein. Je pense aux sécurisations de l'espace. Hein. Il y a des dispositifs panoptiques, du style Digicode à l'entrée des locaux, ce qui ne se faisait pas il y a 15 ans en France. Hein. Digicode à l'entrée des locaux, je parle ici à la fois d'équipements sociaux, Digicode, Oculus dans les murs opaques, les bureaux d'accueil, hein, parfois vitrés d'ailleurs, hein, ou vitres sans teint, des lieux de consultation, on voit ça de plus en plus. Comme on dit d'ailleurs de manière significative, visant à sécuriser, c'est un terme très à la mode hein, en France, hein, c'est-à-dire à écarter finalement tout risque potentiel en provenance des usagers. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier qu'il n'y a pas des risques, hein, que les risques ne soient pas réels, qu'il n'y a pas aussi nécessité de protéger d'une manière ou d'une autre le personnel. Mais ce qui est significatif, c'est que ces dispositifs de contrôle panoptique et de prévention, cette